Les cours du Collège de France, Antoine Lilti, chère Histoire des Lumières, 18e, 21e siècle.
Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Ceux et celles d'entre vous qui ont suivi le cours l'an dernier se souviennent sans doute, enfin je l'espère, des derniers mois d'Aotourou, lorsque celui-ci attendait, mélancolique, à l'Île-de-France, qu'une expédition soit organisée pour le ramener à Tahiti. Nous avions commenté le témoignage précieux de Bernardin de Saint-Pierre qui séjournait alors sur l'île, où il a passé 3 ans, de 1768 à 1771. Frappé par l'importante communauté indienne qui résidait à l'Île-de-France, Bernardin en a été amené à s'intéresser à l'Inde, qui commençait alors à susciter la curiosité des milieux littéraires et philosophiques français. À vrai dire, cet intérêt n'était pas tout à fait nouveau. On peut penser notamment au célèbre voyage en Inde de François Bernier au XVIIe siècle, mais il s'était accéléré, disons, dans les années 1740, au moment où la France avait semblé sur le point de se construire un empire colonial dans le sous-continent sous l'autorité de François-Joseph Dupleix. L'enthousiasme avait alimenté un début de fascination exotique pour l'Inde fabuleuse, selon l'expression de Jacky Assayag. Alors, vous le savez, l'aventure impériale a mal tourné pour les Français, puisqu'ils ont été presque entièrement chassés d'Inde durant la guerre de 7 ans par les Anglais, à l'exception de quelques comptoirs. Il reste que l'Inde était désormais bien inscrite sur la carte mentale de l'Europe, et cet intérêt n'a fait que croître avec la rapide conquête de l'Inde par l'East Indian Company. Phénomène assez inouï, hein, et on ne peut pas insister assez, une compagnie, l'East Indian Company, qui était donc une compagnie de commerce privée, a conquis en quelques années d'immenses territoires qu'elle ne cherchait guère à l'origine à administrer, mais dont elle souhaitait tirer le plus de profit possible. Jusque-là, les savoirs sur l'Inde étaient restés assez limités, reposant sur quelques récits de voyage, des lettres de missionnaires et les effets méritoires d'aventuriers philosophes comme Anquetil du Perron, qui a séjourné en Inde dans les années 1750 et en a rapporté de précieux manuscrits. L'arrivée des Anglais a suscité à la fin du siècle une production nouvelle de savoirs orientalistes sur l'Inde, dont témoigne la création de la Société asiatique de Calcutta en 1784 sous l'égide de William Jones, véritable académie savante consacrée à la connaissance de l'Inde ancienne et moderne. Alors pendant ce temps, Bernardin de Saint-Pierre, lui, était rentré en France et il s'était fait un nom dans la vie littéraire par la publication d'abord de son voyage à l'Île-de-France, puis de ses études sur la nature, et surtout, vous le savez, par le succès, le grand succès remporté par son roman « Paul et Virginie », publié en 1788. L'année suivante, il manifeste son adhésion à la Révolution, notamment dans ses « Vœux d'un solitaire », j'en parlerai, puis il publie, en 1791, un court roman, presque une nouvelle, intitulée « La chaumière indienne », dans lequel il donne libre cours à son intérêt pour l'Inde. Le texte connaît un réel succès, il est tout de suite réédité, traduit en anglais. Il continuera à être beaucoup lu au XIXe siècle, influençant par exemple George Sand ou Flaubert, avant d'être totalement oublié à mesure que la réputation posthume de Bernardin s'estompait, ne laissant subsister, et encore, que Paul et Virginie et l'image d'un adepte naïf du finalisme providentiel qui croyait que les melons étaient faits pour être mangés en famille à cause de leur forme. Alors c'est cette chaumière indienne dont je voudrais vous parler aujourd'hui. L'histoire est la suivante. Aux environs de 1760, un savant anglais arrive en Inde dans le cadre d'une grande opération de la Royal Society britannique consistant à envoyer des expéditions dans le monde entier muni de copieux questionnaires, de façon à rassembler un savoir véritablement universel. Après un long voyage qu'il a mené de Constantinople au Liban, de la Perse à Delhi, le voici à Bénarès, sur les bords du Gange, où il complète sa collection de manuscrits rares et de livres anciens, et s'entretient avec les brahmanes, ou les brahmes, comme on disait à l'époque. Puis, au moment de rentrer à Londres avec sa riche cargaison de lumière, c'est l'expression, patatras, il réalise que tout ce savoir accumulé, loin de l'avoir rendu plus éclairé, l'a au contraire plongé dans des affres de perplexités et de doutes, qu'il s'est perdu, je cite, dans un vaste labyrinthe de réponses et d'autorités contradictoires. Le voici désespéré, accablé de chagrin. Alors qu'il pensait avoir triomphalement rempli sa mission, il découvre que cette accumulation de savoir était vaine et qu'elle l'a conduit à une impasse. Il décide alors d'aller consulter le grand brahmane du sanctuaire de Jagannath, qu'on appelle aujourd'hui Jagannath, qui était réputé pour être le plus important temple hindou. Vous voyez que Bernardin avait bien lu sa documentation. Et il décide de se concentrer non plus sur son questionnaire, mais sur trois questions essentielles, presque existentielles, universelles, pourrait-on dire. Qu'est-ce que la vérité? Comment peut-on la connaître? Et à qui faut-il la révéler? Il se met en route, mais il est très mal reçu par le grand brahmane, personnage odieusement arrogant et autoritaire, entouré de prêtres sectaires, qui se contentent de lui répondre que seuls les brahmanes peuvent connaître la vérité, qu'elle est conservée dans des manuscrits sanscrits datant de 120 000 ans que seuls peuvent lire et qu'ils n'en communiquent les secrets à personne. Oui, j'ai 120 000 ans, vous avez bien entendu, on ne plaisante pas avec l'antiquité de la tradition chez les brahmanes de Jagannath. Alors, je ne vous cache pas que notre savant est un peu déçu. Et d'ailleurs, il ne cesse de rouspéter sur le chemin du retour. L'homme est donc condamné par toute la terre aux erreurs et aux disputes. C'était bien la peine de venir aux Indes consulter les brahmes. Mais, surpris par l'orage, il est contraint de se réfugier. Et il se réfugie chez un paria, au grand scandale de ses accompagnateurs indiens qui refusent d'entrer dans cette chaumière infâme, habitée par un homme impur, qu'ils n'ont pas le droit de toucher. Alors, l'anglais, lui, est anglais, donc pragmatique, et il déclare crânement « Pour moi, toutes les castes de l'Inde me sont égales lorsqu'il s'agit de me mettre à l'abri de la pluie. » Il y découvre, dans cette chaumière, un homme, donc le paria, sa femme et leur bébé, qui, bien que méprisés et rejetés de tous, vivent dans la simplicité, le bonheur domestique et l'harmonie naturelle. Bernardin s'amuse ainsi à déjouer les attentes, là où le lecteur s'attendait à un spectacle désolant, à la peinture du malheur et de l'infamie, c'est au contraire un tableau de genre, vertueux, bucolique, bon, on se croirait chez Greuze. Le savant pose alors ces trois questions au paria. Celui-ci répond premièrement que la vérité se trouve dans la nature, deuxièmement qu'on ne peut la connaître qu'avec un cœur simple et pur, et troisièmement qu'il ne faut la transmettre qu'aux hommes qui ont le cœur simple, c'est-à-dire aux gens de bien qui la cherchent et non aux méchants qui la repoussent. Alors notre héros est enchanté de tant de sagesse et sur cette gravure qui est tirée de l'édition illustrée, la grande édition illustré des romans de Bernardin en 1838, vous pouvez assister aux adieux émouvants du paria et du savant anglais. Alors, vous le voyez, la morale est construite autour d'un double contraste. D'abord, celui qui oppose de façon évidente le brahmane et le paria. D'un côté, l'arrogance cléricale et sectaire, le préjugé, le pouvoir, le mépris. De l'autre, une sagesse simple à l'écart de toute ambition, la pratique ordinaire de la vertu, l'hospitalité, l'amour conjugal. Et la vérité est entièrement du côté du second, ce paria misérable qui est le garant de la vertu contre les élites corrompues. Ce qui, dans le contexte révolutionnaire de 1791, était un discours politique immédiatement compréhensible. La préface, d'ailleurs, insiste sur ce point, la critique des castes et la critique de tout statut et même de toute inégalité fondée sur la naissance et l'hérédité. Aucun être humain ne peut être tenu pour responsable, en bien ou en mal, des actes de ses ancêtres. Ça, c'est la première opposition. Deuxième opposition, Bernardin donc, oppose le paria aux savants européens. La sagesse, simple et naturelle du premier, ne contredit pas seulement les mystères religieux des brahmanes, mais aussi les prétentions savantes des académies européennes. Le projet de la Royal Society est présenté comme, enfin, il est présenté avec une emphase dont la dimension ironique est criante. Les 20 savants qui ont été envoyés tout autour du monde, dans différents pays, ont été munis chacun de 3500 questions, ça c'est du formulaire, de façon, et c'est autre chose que celui qu'on vous fait remplir à la fin des cours, hein, heureusement, de façon à consulter, je cite, le plus superbe édifice encyclopédique qu'aucune nation eût encore élevé au progrès des connaissances humaines. Il s'agissait d'aller chercher dans diverses parties du monde des lumières sur toutes les sciences afin d'éclairer les hommes et de les rendre plus heureux. Alors vous voyez, Bernardin s'ingénie à parodier le langage des lumières et des académies savantes. Mais le projet se heurte très vite à l'évidence que la diversité des savoirs ne se laisse pas réduire en système, loin de former un ensemble cohérent, elle ne produit que des réponses contradictoires, elle suscite des controverses sans fin et sans intérêt. Le paria, à l'inverse, vit totalement à l'écart de la culture écrite. Il ne possède aucun livre, ne sait ni lire ni écrire. Vous vous êtes épargné bien des doutes, dit le docteur en se frottant le front. Bernardin en profite évidemment pour régler ses comptes avec les académies qui n'ont pas reconnu ses travaux sur les marées qui, il faut dire, contredisaient totalement les théories de Newton. Mais au-delà, ce qui est plus intéressant et plus original, c'est le rejet total de la culture écrite et de toute dimension cumulative du savoir au nom d'un rapport immédiat et sensible au monde et à la nature. Je cite un passage. « La vérité me serait suspecte, répondit le paria, si elle ne venait à moi que par le moyen des hommes. Ce n'est point parmi eux qu'il faut la chercher, c'est dans la nature. La nature est la source de tout ce qui existe. Son langage n'est point inintelligible et variable comme celui des hommes et de leurs livres. Les hommes font des livres, mais la nature fait des choses. Fonder la vérité sur un livre, c'est comme si on la fondait sur un tableau ou une statue, qui ne peut intéresser qu'un pays, et que le temps altère chaque jour. Donc la science, comme l'art, est une production humaine. C'est un artefact culturel, elle est donc variable, localisée, elle ne peut intéresser qu'un pays. Elle est variable, le temps l'altère. Elle ne peut donc avoir aucune prétention à l'universalité. Seul un rapport immédiat à la nature, c'est-à-dire un rapport fondé sur l'expérience directe, peut permettre d'accéder à une vérité. Et donc, par l'intermédiaire du paria, Bernardin développe une critique de la raison au profit du sentiment. La raison nous trompe parce qu'elle est fondée sur l'intérêt, ce qui explique qu'elle soit si variable par toute la Terre. Alors, cette diversité des idées, des pensées, était généralement renvoyée à la diversité des préjugés auxquels les philosophes des Lumières opposaient la raison comme garante universelle de la vérité. Non, non, répond le paria, la raison est variable elle-même, la seule faculté d'accès aux vérités universelles passe par le cœur et le sentiment. À l'intelligence et à l'esprit, il oppose donc le cœur, il faut chercher la vérité, dit-il, avec un cœur simple, c'est la formule qui revient tout au long du discours du paria. Pourquoi ? Parce que le cœur ne trompe jamais. Votre réponse est profonde, dit le docteur, il faut d'abord chercher la vérité avec son cœur et non avec son esprit. Alors, vous l'avez compris, ces deux oppositions, le paria face et le brahmane et puis le paria et le savant européen, en fait, ces deux oppositions ne font qu'une. Le roman ne cesse de montrer qu'il existe en réalité une solidarité entre les hiérarchies intellectuelles, sociales et religieuses. Lorsque le savant anglais part chargé de cadeaux pour le temple de Jagannath, le narrateur commente « On eût pris le docteur avec son bel équipage pour un commis de la Compagnie des Indes », ce qui est une manière évidemment de souligner le lien entre désir de savoir et domination impériale, comme si Bernardin de Saint-Pierre avait lu Édouard Said et Michel Foucault. Plus largement, la critique s'exerce à l'égard d'une conception du savoir qu'il identifie à une marchandise que l'on pourrait acheter, que l'on pourrait stocker et surtout que l'on pourrait accumuler. D'ailleurs, le savant anglais est parti en Inde muni de lettres de recommandation, mais surtout, ce qui vaut mieux, dit le narrateur, de lettres de change sur les meilleurs banquiers de Londres. Or, cette accumulation est un leurre. Le commerce ne saurait être le modèle d'un accès à la vérité. Les connaissances ne s'ajoutent pas les unes aux autres comme des pièces dans un trésor. Elles se contredisent, elles se détruisent mutuellement. L'accumulation, loin d'aboutir à l'universalité d'un savoir total, ne conduit qu'à multiplier les contradictions et les désaccords. Elle risque surtout d'aboutir à la confiscation du savoir par une petite caste de savants, de la même façon que les aristocrates accumulent le pouvoir et que les marchands accumulent la fortune. Comme l'écrit Bernardin dans le préambule de La Chaumière, il écrit ceci: « La vérité même est funeste aux hommes quand elle devient le patrimoine d'une tribu. » Patrimoine, le mot ici n'est évidemment pas anodin. La vérité, comme les richesses, peut être accaparée par des prêtres ou par des académiciens, et rien n'est plus dommageable. À l'inverse, le paria, lui, ne possède rien. Il n'accumule rien. Il vit dans le dénuement matériel. Sa seule richesse est l'amour de sa femme et sa connaissance de la nature. Et c'est précisément ce qui lui permet d'atteindre le véritable universel, celui du cœur et du sentiment. Rejeté, exclu de la société, dépouillé de tout orgueil, de toute vanité, de tout préjugé aussi, il devient, au fond, une figure de l'humanité. Et c'est ce que lui-même formule ainsi, dans cette phrase très frappante: « Ne pouvant être indien, je me suis fait homme. » Alors, comme vous le voyez, le récit a beau se présenter comme un conte philosophique, avec une satire anticléricale, sa leçon n'a rien à voir avec la philosophie de Voltaire. Tout au contraire, en bon disciple de Rousseau, Bernardin fait de son paria un homme de la nature, au double sens de celui qui vit au plus près du monde naturel, loin des sciences et des arts, à l'écart des villes et de la civilisation, mais aussi de celui qui communie avec la nature, qui a développé une philosophie naturelle très proche d'un humanisme religieux, évangélique. Bernardin insiste d'ailleurs dans son préambule sur le fait que le discours du paria est calqué sur celui de Jésus dans les évangiles. Autrement dit, la critique des inégalités et des prêtres ne débouche pas sur le rationalisme voltairien ou sur une pensée du progrès à la Condorcet, mais sur un discours empreint de religiosité et très proche en ce sens de la profession de foi du vicaire savoyard dans l'Émile de Jean-Jacques Rousseau. Alors, la question qu'on peut se poser maintenant, c'est au fond, d'où vient cette figure du paria autour de laquelle Bernardin construit un discours nouveau de l'universel, complètement à rebrousse-poil du discours universaliste et rationaliste des Lumières qui était fondé, nous l'avons vu les semaines précédentes, hein, c'était tous mes cours des dernières semaines, fondé sur le commerce, le savoir et la civilisation. Alors, le mot paria apparaît dans les textes portugais du début du XVIe siècle et les spécialistes estiment que c'est une déformation du terme indien qui désigne la caste, une caste très particulière qui était la caste des joueurs de tambour à Madras, avec lesquels les Portugais étaient en contact fréquent, notamment parce qu'ils s'y fournissaient en domestique. Et qu'ils ont donc confondu, par une sorte de malentendu, cette caste des joueurs de tambour avec les hors-castes, les intouchables, ceux qu'on appelle dans l'Inde contemporaine les Dalits. Le terme, néanmoins, est resté très peu diffusé, limité à quelques récits de voyage, et n'est entré dans le langage public qu'au XVIIIe siècle. Un des premiers textes à en avoir popularisé l'usage, c'est l'histoire philosophique des deux Indes de l'abbé Raynal, que j'avais déjà évoqué la semaine dernière. Alors, dans le premier volume, on trouve une longue description de l'Inde, ou plutôt de l'Indostan, comme on disait alors, dans laquelle est dénoncée la situation sinistre faite aux parias. L'ensemble du texte est construit autour de l'opposition entre l'Inde antique, berceau de la civilisation et de la sagesse, et l'Inde contemporaine, saturée par l'injustice et la superstition. Après avoir décrit les quatre castes principales de l'Inde, Raynal ajoute, je cite, « Outre ces tribus, il y en a une cinquième qui est le rebut de toutes les autres. Ceux qui les composent ont les emplois les plus vils de toute la société. Ils enterrent les morts, ils transportent les immondices et se nourrissent de la viande des animaux morts naturellement. Ils sont dans une telle horreur que si l'un d'entre eux osait toucher un homme d'une autre classe, celui-ci a le droit de le tuer sur le champ. » Et c'est la description des parias. L'édition de 1780, je vous avais dit, il y a trois grandes éditions, donc l'édition de 1780, la troisième, la dernière, est la plus précise encore, elle ajoute des détails et conclut « Cet excès d'avilissement, où l'on voit plonger une partie considérable d'une nation nombreuse, a toujours paru une énigme inexplicable. Les esprits les plus clairvoyants n'ont jamais démêlé comment des peuples humains et sensibles avaient pu réduire leurs propres frères à une condition si abjecte. » L'Inde devient ainsi, la société indienne devient ainsi le symbole d'une société radicalement inégalitaire, où des individus font l'objet d'une exclusion abjecte et sont jugés, selon la formule de Raynal, indignes de participer aux avantages de l'humanité. Alors, il vaut la peine d'ailleurs de noter que, en schématisant, Français et Anglais réagissent différemment à cette situation et à cette image. Pour les Anglais, le système des castes est une spécificité immémoriale de l'Inde, qu'il s'agit donc de respecter, de maintenir, quelle que soit la condamnation qu'elle peut susciter, ce qui renforce d'ailleurs le sentiment de supériorité morale des Européens. Et il existe d'ailleurs, je n'ai pas le temps d'y rentrer aujourd'hui, mais sachez qu'il existe tout un débat chez les historiens et chez les anthropologues pour savoir dans quelle mesure les Anglais ont en réalité renforcé le système des castes, voire s'ils ne l'ont pas en partie inventé. Pour les Français, en revanche, il s'agit d'abord d'un contre-modèle, un contre-modèle qui permet de penser en miroir la nécessité de réformes égalitaires en France, et c'est véritablement comme ça, évidemment, que Raynal et Diderot l'utilisent. Mais il faut remarquer aussi que Bernardin ne reprend qu'en partie cette critique virulente qu'il a pu trouver dans l'histoire philosophique des deux Indes, mais aussi dans le récit de voyage de Pierre Sonnerat, publié en 1782, dont il s'est inspiré. Bien sûr, dans son texte aussi, chez Bernardin, donc, la situation du paria ne peut que choquer. Le récit que celui-ci fait de son expérience et de son histoire est celle d'une succession de malheurs, pas le temps de vous la décrire ici, mais, pour aller vite, le paria est rejeté de tous, il est proprement déshumanisé. D'ailleurs, lorsque le savant anglais, pendant l'orage, entend pour la première fois parler du paria, en voyant les cris affolés des Indiens qui l'accompagnent, sa première réaction est de saisir ses pistolets, persuadé qu'il s'agit d'un animal féroce. Mais l'originalité de Bernardin, nous l'avons vu, c'est que son paria n'est pas exclu de l'humanité et de l'universel, il est exclu de la société, ce qui est bien différent parce que ça lui permet justement d'accéder à une humanité plus authentique. Bernardin va même plus loin, en nous présentant le paria vivant avec sa femme et son enfant dans une sorte de bonheur familial et conjugal. Le paria se déclare d'ailleurs tout à fait heureux, n'ayant de compte à rendre à personne qu'à Dieu. « Un paria est moins malheureux qu'un empereur », déclare-t-il à la grande surprise de son interlocuteur. Bref, tel Sisyphe, il faut imaginer le paria heureux. Et c'est ce que je vous propose d'appeler le paradoxe du paria, qui débouche, notons-le, sur une aporie politique. Pourquoi dénoncer l'inégalité et l'injustice si les personnes les plus discriminées peuvent trouver la justice et la vérité plus facilement que les élites? C'est une contradiction dans le texte de Bernardin, et une contradiction, on le sait, qui est au cœur du message évangélique, celui-ci pouvant aussi bien nourrir une critique de l'inégalité sociale qu'une forme de résignation dans l'attente du salut et du jugement dernier. Non seulement le paria est heureux, mais il est totalement vertueux. Dans les textes de Diderot et Rénal, le paria était avili. Il ne pouvait développer aucune des qualités sociales qui sont le propre d'un humain civilisé. Pour Bernardin, à l'inverse, le paria est l'archétype du noble sauvage. Sauvage que l'on peut entendre au sens propre, l'homme des bois. Puisqu'il vit dans la forêt, à l'abri d'ailleurs, il a construit sa chaumière à l'abri d'un grand figuier bagnant. Il est presque inséré comme ça dans la forêt. Il est moins un exclu qu'un ermite, s'étant volontairement retiré de la société des hommes. Comme l'a montré dans un très bel article Raphaël Rousselot, Bernardin de Saint-Pierre a en réalité fusionné deux figures, celle du noble sauvage que l'on trouve chez Montaigne ou chez Lahontan et qui renvoyait plutôt à l'Amérique, et une autre tradition, celle du sage nu, le gymnosophiste, qui remonte justement à la représentation des brahmanes indiens par les Grecs à l'époque d'Alexandre le Grand, au moment où Alexandre donc arrive en Inde. Et on a plusieurs récits dans l'Antiquité grecque, par exemple chez Plutarque, qui laissent une image des brahmanes comme des ascètes végétariens vivant nus dans la nature, totalement détachés des biens matériels et des honneurs. Alors, c'est une représentation qui a perduré non seulement dans la littérature de l'Antiquité tardive, par exemple dans le roman d'Alexandre au IIIe siècle, ou dans toute la tradition cynique qui voyait dans ces brahmanes des équivalents orientaux de Diogène, mais aussi chez les auteurs chrétiens, par exemple, chez Ambroise de Milan au IVe siècle, qui décrivait ainsi l'accueil des brahmanes à Alexandre, je cite, « Si vraiment, donc les brahmanes qui s'adressent à Alexandre, si vraiment tu veux connaître la vérité, viens en Inde vivre nu parmi le monde sauvage en renonçant à tous les honneurs que tu chéris, à toutes les marques de distinction que tu portes, alors seulement nous t'accepterons parmi nous. » La conclusion d'Ambroise, enfin, si c'est bien Ambroise, les spécialistes discutent de l'attribution du texte, mais enfin, la conclusion d'Ambroise, bien sûr, était néanmoins la supériorité du christianisme. Ironiquement, chez Bernardin, le brahmane est lui devenu un prêtre opulent et orgueilleux, alors que la figure du sage nu est désormais endossée par le paria, qui a en quelque sorte renversé le stigmate en acceptation heureuse du dépouillement. En cela, il évoque un peu le hottentot cité par Rousseau dans le discours sur l'inégalité, qui rejette ses vêtements néerlandais pour retourner vivre libre parmi les siens, mais aussi pour nous la figure de Paotou, le Tahitien éduqué par les Espagnols, qui lui aussi se déshabille, se dépouille au moment où il rompt avec les Espagnols et repart vivre parmi les siens. J'avais traité ces deux figures et leur rapprochement l'an dernier dans une des séances. Alors, à cette différence près, évidemment, que le paria, lui, a été rejeté, qu'il est discriminé et méprisé. Au cours du XIXe siècle, la figure du paria va connaître un élargissement et une mutation pour devenir une figure générique de l'exclusion sociale et de la marginalité subie, du mépris institué et de la discrimination, comme l'a montré Eleni Varikas dans un très beau livre que j'avais cité lors de la première séance et sur lequel je m'appuie ici, « Les rebuts du monde, fragments du paria ». Deux pièces de théâtre à succès accompagnent cette transformation du paria en figure générique. C'est d'abord le paria, justement, de Casimir de la Vigne, en 1821, histoire d'un paria indien qui réussit, en cachant son identité, à sauver Bénarès des envahisseurs, puis qui est découvert et condamné à mort par ceux-là même qui l'a sauvé. À travers cette figure romantique du proscrit héroïque, la pièce contenait énormément d'allusions à la situation en Europe et aux promesses inaccomplies des droits de l'homme. Deux ans plus tard, une autre pièce, celle d'un auteur allemand, Michael Beer, jouée en 1823 à Berlin, et qui s'intitule, pas très original, Der Paria, est reçue triomphalement, notamment par Goethe, qui s'enthousiasme. L'auteur de la pièce appartenait à la communauté juive berlinoise, sa mère était une assez célèbre salonnière de Berlin, et la pièce a été pensée et reçue et comprise comme une réflexion sur la situation des Juifs en Prusse après l'émancipation, dans un contexte, les années 1820, de recrudescence de l'antisémitisme en Prusse. La pièce a d'ailleurs été par la suite une des références de Max Weber au moment où celui-ci a développé sa théorie sociologique du groupe paria, théorie qu'il a ébauchée d'abord dans son travail sur l'hindouisme, mais surtout qu'il a développée dans son livre sur le judaïsme antique, rédigé à la fin de la Première Guerre mondiale. Pour Max Weber, les Juifs sont l'archétype du groupe paria, c'est-à-dire des étrangers vivant dans une société qui les tolère parce qu'ils exercent des tâches impures et nécessaires, mais dont ils sont séparés par des interdits rituels et par l'interdiction de l'exogamie. Ils sont ainsi discriminés sur une base ethnique, ou du moins héréditaire, considérés comme impurs, tout en étant économiquement dépendants. Pour Weber, cette situation du groupe paria alimente une forme spécifique de religiosité fondée sur l'acceptation de ce statut discriminé, sublimé en mission universelle et en espérance du salut. Il écrit par exemple « La condition de peuple paria en tant que tel et son acceptation patiente deviennent ainsi le degré suprême de la religiosité ». Par la suite, Hannah Arendt a repris cette lecture pour développer sa propre théorie du juif émancipé comme paria, partagé entre l'acceptation de la marginalité, la soumission à l'ordre établi, la révolte révolutionnaire du paria conscient, c'est son terme, qu'elle reprend à Bernard Lazare, le rire poétique et humaniste, et toute une série en fait de possibilités qui s'offrent aux juifs émancipés, mais restant dans une situation de relative dépendance, hein, donc acceptation de la marginalité, soumission à l'ordre établi, révolte révolutionnaire du paria conscient, rire poétique, et enfin l'utopie d'une intégration réelle à la société des hommes sur la base d'une réelle égalité des droits. Mais ce qui restait pour Arendt, une utopie. La figure du paria, élaborée à partir de représentations littéraires, fictionnelles de l'Inde, est devenue ainsi un outil pour penser le rapport des groupes discriminés à l'idéal d'une insertion égalitaire dans la société. Elle fait ressortir les ambivalences de l'universalisme. Le paria cherche-t-il avant tout à échapper à sa condition en se fondant dans la société majoritaire ? Cherche-t-il à se faire adopter des élites en singeant leur comportement ou doit-il, au contraire, accepter son statut ? Et, dans ce dernier cas, le fera-t-il sous la forme de l'acceptation et du renoncement, de la sécession assumée et de la marginalité revendiquée, à vocation religieuse ou artistique ? Ou le fera-t-il plutôt sur le mode de la rébellion, de la contestation et de l'activisme minoritaire ? On retrouve ici une tension inhérente à la question de l'émancipation des groupes discriminés. Alors vous vous souvenez peut-être que j'avais évoqué dans la première séance la théorie du philosophe américain Michael Vaser qui opposait deux sortes d'universalisme. D'une part, l'universalisme de surplomb, celui de la loi égale pour tous, et d'autre part, ce qu'il appelle l'universalisme réitératif, celui de la révolte d'un peuple à la recherche de la liberté, de sa liberté, dont il trouvait la forme originelle dans la sortie d'Égypte des Hébreux, telle qu'elle est évidemment racontée dans l'Ancien Testament. Les Hébreux sous Pharaon C'est aussi le groupe paria par excellence pour Max Weber. Et toute l'ambiguïté se trouve dans ce geste qui est en réalité moins une révolte qu'une sécession, qui n'est pas seulement l'affirmation d'un sentiment de justice bafoué, mais aussi la revendication d'une destinée propre du groupe paria, guidée par son Dieu et par la recherche de la terre promise. Alors, il y aurait évidemment beaucoup plus à dire sur les usages de la figure du paria dans la philosophie et les sciences sociales du XXe siècle. Et j'en redirai un mot tout à l'heure. Mais je voudrais signaler que cet élargissement métonymique du paria indien à d'autres situations de discrimination collective qu'on rattache en général au XXe siècle, eh bien, cet élargissement se trouve déjà chez Bernardin de Saint-Pierre, dans le préambule de la chaumière indienne. Voilà ce qu'il écrit. « C'est à l'influence prétendue de la naissance que sont attachés la plupart des maux humains. C'est sur elle que sont fondés la haine et le mépris qui accablent une foule d'hommes utiles et même des peuples entiers. L'esclavage des nègres, les persécutions faites aux juifs, l'ancienne servitude féodale de nos paysans, l'oppression des guèbres, c'est-à-dire des zoroastriens, l'oppression des guèbres chez les Turcs, l'infamie des parias chez les Indiens. » Alors, j'en profite pour préciser un point important qui vaudra pour d'autres textes. Le terme « nègre » qui est pour nous aujourd'hui évidemment profondément choquant, associé aux pires discriminations racistes, était un terme très fréquemment employé au XVIIIe siècle, même par des auteurs, c'est le cas de Bernardin, animés, si on peut dire, des meilleures intentions. Je fais donc le choix, lorsque je lis des citations, de ne pas le modifier pour des raisons historiques, qu'il s'agit de sources, mais sans, évidemment, le reprendre à mon compte, vous l'avez bien compris, et surtout en m'excusant auprès de ceux que... d'entendre ce terme pourrait légitimement heurter. Alors, au demeurant que la situation des esclaves soit évoquée en premier dans le texte de Bernardin que je viens de citer, n'est pas un hasard. Depuis son séjour à l'Île-de-France, où il avait pu constater la situation des esclaves, Bernardin ne cessait d'en dénoncer les horreurs. Plusieurs passages de son voyage à l'Île-de-France critiquent ouvertement les ravages de l'esclavage et la cupidité des Européens, tellement attachés au café et au sucre qu'ils ont, je cite, « dépeuplé l'Amérique pour avoir une terre où les planter et qu'ils dépeuplent l'Afrique afin d'avoir une nation pour les cultiver ». C'était surtout une mise en accusation des souffrances infligées par les maîtres aux esclaves. Je cite « J'ai vu chaque jour fouetter des hommes et des femmes pour avoir cassé quelques poteries, oublié de fermer une porte. J'en ai vu de tout sanglant, frotter de vinaigre et de sel pour les guérir. J'en ai vu sur le port, dans l'excès de leur douleur, ne pouvoir plus crier, d'autres mordre le canon sur lequel on les attache. Ma plume se lasse d'écrire ces horreurs, mes yeux sont fatigués de les voir et mes oreilles de les entendre. » La critique de l'esclavage se fonde ainsi non pas sur un discours théorique abstrait, mais sur une expérience sensible dans tous les sens du terme. Si Bernardin peut écrire aussi fermement contre l'esclavage, c'est parce qu'il a vu et entendu, parce qu'il a été le spectateur ému du malheur d'autres êtres humains avec lesquels il s'est identifié, parce que leur sort l'a révolté et qu'il veut en porter témoignage. Dans sa préface, il écrit « Au reste, je croirais avoir été utile aux hommes si le faible tableau du sort des malheureux noirs peut leur épargner un seul coup de fouet, et si les Européens, qui crient en Europe contre la tyrannie et qui font de si beaux traités de morale, cessent d'être aux Indes des tyrans barbares. » Alors, comme l'ont noté Vladimir Kapor puis Sylvia Sebastiani, les gravures de Jean-Michel Moreau le Jeune qui accompagnent le texte ont renforcé encore cette image désolante de l'esclavage en invitant le lecteur, spectateur européen à s'apitoyer sur leur sort misérable et à faire un retour critique sur sa propre culpabilité. Voyez par exemple cette gravure qui illustre le sort malheureux des esclaves enchaînés, fouettés, c'est à l'arrière-plan, l'esclave fouetté, réduit à se nourrir de cadavres d'animaux, ici le cadavre d'un cheval. Ici encore, c'est le spectacle de la souffrance qui doit émouvoir le lecteur et le convaincre, mieux que des raisonnements, de l'horreur de l'esclavage. Et vous voyez la phrase inscrite sous l'image, « Ce qui sert à vos plaisirs est mouillé de nos pleurs ». Alors Bernardin y reviendra à plusieurs reprises, à la fois dans la fiction, notamment dans Paul et Virginie, dont on oublie parfois que ce n'est pas seulement une bleuette exotique, mais qu'il contient aussi une dénonciation du colonialisme et de l'esclavage, et sur un plan plus politique, dans ses vœux d'un solitaire en 1789, dans lesquels il appelait les députés de la Constituante, je cite, « à soutenir les femmes opprimées par les lois, les enfants rendus misérables par notre éducation, les paysans dépouillés par les impôts, les citoyens forcés au célibat, les serfs du Mont-Jura, les nègres de nos colonies. » Ce discours n'était pas isolé dans les années 1780, avant même la Révolution. On trouve, par exemple, une critique sans concession de l'esclavage chez Condorcet, dans ses lettres sur l'esclavage des nègres, sur lesquelles je n'ai pas le temps de m'arrêter aujourd'hui, mais qui est marquée par un universalisme audacieux au nom de l'unité de l'humanité, de l'égalité des droits. Bon, je vous cite quand même les tout premiers mots de l'épître aux esclaves noirs qui ouvre le livre et qui commence ainsi. « Quoique je ne sois pas de la même couleur que vous, je vous ai toujours regardé comme mes frères. La nature vous a formé pour avoir le même esprit, la même raison, les mêmes vertus que les Blancs. Je ne parle ici que de ceux d'Europe, car pour les Blancs des colonies, je ne vous fais pas l'injure de les comparer avec vous. Si on allait chercher un homme dans les îles de l'Amérique, ce ne serait point parmi les gens de chair blanche qu'on le trouverait. » Alors, vous pourrez commenter plus longuement ce texte sur la question de la critique de l'esclavage par les penseurs français des Lumières, bien éloigné des poncifs sur les Lumières esclavagistes. Je vous renvoie à la synthèse publiée en 2008 par Jean Hérard, Lumières et esclavage. Plus généralement, c'est tout un courant des Lumières, plus important qu'on ne le pense habituellement, qui critique, dans le dernier tiers du XVIIIe siècle, l'impérialisme et le colonialisme européen. Comme l'a montré, par exemple, Sankar Muthu dans son livre « Enlightenment against Empire ». En s'appuyant sur les cas de Diderot, de Herder et de Kant, Muthu a montré que ces auteurs avaient articulé leur anti-impérialisme sur un universalisme fondamentalement pluraliste. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il veut dire que cet universalisme repose à la fois sur la conviction d'une commune humanité, la base au fond de l'universalisme, mais aussi sur l'idée que l'être humain est un agent culturel et non un simple support de droit formel, ce qui conduit à une troisième dimension, le caractère incommensurable des différentes sociétés et cultures. Autrement dit, et plus simplement, il est impossible de juger les unes avec les critères des autres. Alors, vous voyez bien qu'une telle perspective est aux antipodes du discours de la civilisation que j'ai décrit la semaine dernière, dans lequel les différentes sociétés s'ordonnent sur l'échelle du progrès des mœurs ou sur la grande carte de la civilisation dont le centre est l'Europe française. Pour ma part, j'ajoute que l'universalisme anti-impérialiste ou anti-esclavagiste s'exprime le plus souvent en partant d'une situation de dénonciation, c'est le point sur lequel je voudrais insister, à travers un discours qui ne se contente pas de professer des principes, mais qui met en scène des situations réelles ou fictives, des situations de violence et d'injustice. Et ça, c'est un des ressorts majeurs de l'appel à l'universel. C'est pourquoi je l'appelle universalisme critique, parce qu'il est lié à une expérience, au spectacle du malheur, et qu'il dérive toujours de la description et de la critique d'une situation injuste. Il s'agit dans tous les cas de retourner les principes universalistes contre les Européens en montrant que ceux-ci n'en sont pas dignes, qu'ils les trahissent dès lors qu'on regarde le monde, même de façon fictive, depuis le point de vue de l'autre. Alors, c'est le cas en particulier de plusieurs textes de Diderot, qu'il s'agisse du supplément Voyage de Bougainville ou de ses contributions à l'histoire philosophique des deux Indes, dans lesquels il s'attache à condamner les ravages du colonialisme européen avant d'en appeler ouvertement à la révolte. Par exemple, évoquant les violences commises par les Portugais en Asie, il s'écrit « Barbares européens, l'éclat de vos entreprises ne m'en a point imposé, leur succès ne m'en a point dérobé l'injustice. Je me suis souvent embarqué par la pensée sur les vaisseaux qui vous portaient dans ces contrées lointaines, mais descendu à terre avec vous et devenu témoin de vos forfaits, je me suis séparé de vous, je me suis précipité parmi vos ennemis, j'ai pris les armes contre vous, j'ai baigné mes mains dans votre sang. » Vous voyez, par cette expérience de pensée assez saisissante, Diderot se fait témoin visuel, témoin des exactions coloniales, et cette expérience, même fictive, le conduit à imaginer une violence vengeresse, la prise d'armes pouvant être lue aussi comme une métaphore de la prise de plume, comme une figure du combat intellectuel et littéraire contre les abus de la colonisation européenne, c'est-à-dire comme une autocritique de l'Europe. Mais l'image des mains dans le sang est tellement forte qu'elle impose un imaginaire de la révolte violente, celle des opprimés eux-mêmes. C'est la logique à laquelle Diderot et Rénal sont conduits dans le passage célèbre qui évoque les communautés de noirs fugitifs, les marrons, et prophétise l'arrivée d'un chef courageux, un nouveau Spartacus, levant l'étendard sacré de la liberté, c'est dans le texte, et conduisant les esclaves à la vengeance et au carnage. Alors ce sont là des textes importants, mais on aurait tort pour autant de réduire la critique de l'esclavage aux écrits des hommes de lettres européens. En France, l'abolitionnisme, ou plutôt l'anti-esclavagisme, comme il faudrait l'appeler, parce qu'il ne conduit pas toujours à une action effective en faveur de l'abolition, cet anti-esclavagisme apparaît vraiment dans les années 1770, même si on en trouve évidemment des éléments auparavant. En revanche, le mouvement est plus ancien en Amérique du Nord, où il s'est développé dans le milieu quaker de Pennsylvanie dès la fin du XVIIe siècle. Dans les années 1730-1740, il connaît un certain essor autour de personnages radicaux et marginaux, héritiers des idéaux égalitaires et puritains de la Révolution anglaise, tel Benjamin Lay, qui avait découvert les réalités de l'esclavage à la Barbade et que Marcus Rediker a remis à l'honneur en lui consacrant une récente biographie, mais dont il est difficile de mesurer l'influence et la représentativité. Je parle de Benjamin Lay, évidemment, pas de la biographie. En revanche, à partir des années 1750, le mouvement prend une ampleur nouvelle, marquée par une mobilisation beaucoup plus large des Quakers, qui appellent à affranchir leurs esclaves. À tel point qu'en 1780, la Pennsylvanie votera la première loi d'émancipation graduelle des esclaves. Une des figures les plus marquantes de cette génération de Quakers étant Anthony Benezet, un Quaker d'origine huguenote. Il est né en 1713 à Saint-Quentin, dans une famille protestante, vivant tant bien que mal sous une façade catholique. Ses parents ont ensuite quitté la France pour Rotterdam lorsqu'il avait 2 ans, puis se sont installés à Londres et enfin à Philadelphie en 1731, où ils sont devenus Quakers, ce qui était assez rare pour des calvinistes français, comme l'a montré Bertrand van Rimbeck, qui a reconstitué avec soin l'itinéraire atlantique de cette famille. Anthony Benezet publie à partir de 1760 une série de pamphlets à destination de l'opinion publique, centrée sur la dénonciation de la traite atlantique, de ses conséquences sur l'Afrique et des horreurs de l'esclavage aux Antilles. Cette logique l'amène à valoriser l'image des sociétés africaines qu'il présente sous un jour très favorable en s'appuyant sur de nombreux récits de voyageurs. Le plus important de ses pamphlets, publié en 1771, et d'ailleurs le dernier de la série, il est intitulé « Some Historical Account of Guinea », une histoire de la Guinée. Il a connu un grand retentissement en Angleterre et il existe désormais une traduction française, très bien annotée, publiée en 2017. Alors, pour nous, l'intérêt de ce texte, c'est qu'il cite à la fois, donc il est écrit aux États-Unis par un Quaker de Pennsylvanie, et il cite à la fois des philosophes européens, notamment Montesquieu, qui est évoqué comme une autorité incontestable, et bien sûr la Bible, à l'appui cette fois d'un universalisme évangélique, par exemple, Job 31,14, « N'est-ce pas le même Dieu qui nous a modelés, eux comme nous, dans le ventre de sa mère ?» Le résultat, comme l'a montré David Crosby, c'est que Benezet en vient ainsi à, c'est la formule de l'historien David Crosby, il en vient à séculariser l'argumentaire Quaker, à l'inscrire dans un récit historique, notamment le récit de l'histoire de l'Afrique et de la traite, et dans un discours philosophique qui va donner sa forme particulière à l'abolitionnisme britannique, mélange d'universalisme éclairé et de sentiments religieux. Et de fait, Benezet a exercé une grande influence sur le mouvement abolitionniste anglais, et notamment sur ces deux principales figures que sont, qu'étaient Granville Sharp et Thomas Clarkson, qui ont, dans les années 80, entamé une grande campagne d'opinion qui aboutira à l'abolition de la traite en 1807. En France, Benezet n'est pas non plus un inconnu. Par exemple, Brissot, qui, vous le savez, crée avec d'autres la Société des Amis des Noirs en 1788, eh bien, Brissot cite toujours Benezet et ses pamphlets avec beaucoup d'éloges. La Fondation des Amis des Noirs en 1788, un an auparavant, en Angleterre, la campagne britannique pour l'abolition avait lancé ce qui allait devenir un de ses plus importants symboles, de ses plus grands symboles, le médaillon de céramique produit par Wedgwood en 1787, il représente un esclave enchaîné avec le slogan « Am I not a man and a brother ?» Ne suis-je pas un homme et un frère ? Affirmation simple et pathétique d'un idéal de fraternité et d'humanité. Le terme de frère, ici, ne renvoie pas à un langage civique de la fraternité républicaine, mais au vocabulaire chrétien utilisé inlassablement par les abolitionnistes anglais, et notamment Granville Sharp, dont je vous parlais il y a un instant, qui ne cessait, dans ses écrits, dans ses pamphlets, dans ses textes, ne cessait de mettre en avant le motif évangélique du bon samaritain et la nécessité de traiter tout être humain comme un frère au nom de l'amour de Dieu. Le motif graphique, je suis vraiment désolé de ne pas vous l'avoir mis, mais je pense que vous l'avez, vous pouvez voilà, le visualiser, vous l'avez en tête. Le motif a connu un succès important, adapté sur tout type de support, dans plusieurs langues, dans plusieurs formats. Son adaptation donnera justement le saut de la Société des Amis des Noirs en France. Et on remarque que la position de l'esclave à genoux, tendant les bras au ciel, entre la prière, il est enchaîné, donc il tend les bras au ciel, entre la prière et la supplication, renvoie à un imaginaire chrétien, mais aussi à une forme de soumission, comme si la libération ne pouvait venir que de la miséricorde des maîtres blancs et ou de la bienveillante Angleterre. Pourtant, de l'autre côté de l'Atlantique, dans le sillage des Quakers, une nouvelle génération d'abolitionnistes apparaissait pendant la Révolution américaine et les premières décennies de la Jeune République, parmi lesquelles figuraient plusieurs Africains-Américains. N'oubliez pas que plusieurs dizaines, de milliers en fait, d'Africains-Américains ont été affranchis, ont été libérés au moment de la Révolution américaine dans le Nord, dans les États du Nord. On en compte près de 180 000 au début du XIXe siècle. Alors, ces figures sont aujourd'hui mieux connues grâce à de nombreux travaux qui mettent en évidence l'importance de leur combat et les inscrivent au sein du mouvement évangélique porté par qu'on appelle le grand réveil religieux du protestantisme à partir des années 1740 en Europe, qui gonnait un second essor aux États-Unis à la fin du XVIIIe siècle et tout particulièrement chez les Africains américains avec l'explosion des églises baptistes et méthodistes. Alors, un des cas les plus importants pour rester à Philadelphie, parce qu'on en trouve aussi à New York, à Boston, en tout cas pour rester à Philadelphie, le cas le plus intéressant est celui de Richard Allen, qui a fait l'objet d'une très belle biographie par Richard Newman, le grand spécialiste de ces abolitionnistes noirs, pour lesquels il a forgé la notion de « black founders », les pères fondateurs noirs. Et Richard Allen était né esclave en 1760, ayant acheté sa liberté, il se convertit au méthodisme à 17 ans, devient prédicateur et s'installe à Philadelphie. Il joue un rôle important à la fois dans la constitution d'une communauté religieuse afro-américaine, notamment en créant une église méthodiste, Bethel, à Philadelphie, qui va s'autonomiser des églises blanches, qui va devenir la première église méthodiste noire, autonome, mais aussi pour son engagement dans la cause abolitionniste. Il crée en 1787 la Free African Society, et en 1794, il écrit avec son ami Absalom Jones un pamphlet très vigoureux dans une situation assez tragique qui était qu'en 1793, il y avait une épidémie de fièvre jaune à Philadelphie. Les Noirs avaient été accusés, alors qu'ils s'étaient beaucoup dévoués au règlement sanitaire de la crise, ils avaient été accusés d'en avoir profité, c'est une accusation tout à fait raciste, et Richard Allen et Absalom Jones ont publié un pamphlet pour faire justice de ces accusations, et dans lequel ils ont ajouté un appel vibrant en faveur de l'abolition et de l'égalité raciale. Alors, ce qui caractérise l'engagement de Allen, c'est un mélange de moralisme chrétien et de théologie de la libération, ce qui fait lui à la fois un réformateur des mœurs et un réformateur des mœurs de sa communauté et un défenseur infatigable de la cause des Noirs, à la fois libre ou esclave. Alors, dans ses écrits militants, il n'hésite jamais, et c'est ça qui est intéressant, à évoquer son expérience de l'esclavage, puisque lui-même a grandi esclave. Ce qui lui permet, contre le discours paternaliste des abolitionnistes blancs, d'affirmer que les peuples opprimés, à commencer par les esclaves, doivent être les agents de leur propre libération, parce qu'ils sont les mieux placés pour comprendre les effets de l'esclavage. La critique de la domination esclavagiste ne se fait pas seulement au nom d'un discours théorique des droits, mais sur la base d'une expérience vécue de la domination. Et c'est ce qui distingue Allen des abolitionnistes de la période de la guerre d'indépendance qui fondaient plutôt leur discours sur le droit naturel et les promesses venues de la déclaration d'indépendance. Il s'adresse à la fois à la raison, en affirmant l'égalité des aptitudes intellectuelles et morales, et à la fois en rappelant que Dieu, dans l'Ancien Testament, fut le premier à dénoncer l'esclavage. Refusant toute violence, il prend modèle sur, je cite, « le doux et humble Jésus, modèle de toutes les vertus », et appelle ses frères à ne ressentir, y compris vis-à-vis des esclavagistes, ni animosité, ni amertume. Et là, je suis une traduction d'un passage du texte que vous pourrez trouver, c'est l'occasion de la citer, dans la très remarquable anthologie de la pensée noire, publiée très récemment par Marie-Jeanne Rossignol, Michael Roy, Marlène Dote et Cécile Roudot, qui est un recueil précieux de textes qui montre l'importance tout au long du XIXe siècle d'une tradition intellectuelle issue des révolutions atlantiques et marquée par les échanges transnationaux entre les États-Unis et Haïti. Alors nous y reviendrons en mars, quand nous aborderons la révolution de Saint-Domingue, mais il faut relever que ce courant de pensée que Charles Mills et plus récemment Magali Besson ont proposé d'appeler les Lumières Noires, s'enracine dans une expérience de la subordination raciale et de la discrimination, ou, pour le dire peut-être plus justement, dans une expérience marquée à la fois par la discrimination et par la présence d'un discours égalitaire des droits, donc au cœur de la contradiction même de la modernité. Ces lumières noires, telles qu'elles s'expriment au tournant des 18e et 19e siècles, ont donc été obligés de retourner le stigmate en fierté et de trouver d'autres ressources pour penser l'émancipation que le discours strictement juridique des droits. Elles retrouvent ainsi la question du paria au cœur des contradictions de la modernité. Et il n'est pas anodin que William Du Bois, le grand sociologue américain noir du début du XXe siècle, qui est en quelque sorte l'héritier de toute cette pensée et de ces lumières noires, eh bien, que William Du Bois disait se sentir paria et étranger dans sa propre maison. Il n'est pas anodin non plus qu'une grande figure de la pensée africaine contemporaine, comme le philosophe camerounais Fabien Ebussi Boulaga, qui est mort en 2018, qui était un ancien jésuite, donc à la fois philosophe et théologien, eh bien qu'il ait repris à Hannah Arendt le thème du paria conscient pour penser le statut de l'intellectuel africain dissident dans une situation postcoloniale. Ces lumières noires, d'ailleurs, n'étaient pas exclusivement masculines. Eleni Varikas ouvre d'ailleurs son livre « Les rebuts du monde » sur le cas de Phyllis Wheatley, cette esclave et poétesse noire qui a connu un succès littéraire à Londres au milieu des années 1770, suscitant l'adhésion du public et sur lesquels je reviendrai peut-être, parce qu'il y a beaucoup de travaux actuels autour d'elle, notamment une biographie récente. Plus tard, au milieu du XIXe siècle, Flora Tristan, qui était à la fois écrivaine, militante socialiste et féministe, a inlassablement rapproché la situation des femmes de la situation du paria, en publiant par exemple « Les pérégrinations d'une paria » ou en écrivant à Victor Considérant, je cite, « Un jour, les parias seront admis au grand banquet de l'humanité ». Or, et je vais terminer par là, cette représentation de la femme en paria d'une situation, d'une société patriarcale, eh bien, on la trouve déjà à la fin du XVIIIe siècle chez Germaine de Staël. Commentant La chaumière indienne de Bernardin, elle écrit en 1796, dans De l'influence des passions sur le bonheur des individus, « Je ne sais rien de plus profond en moralité sensible que le tableau de la situation du paria, de cet homme d'une race maudite, abandonné de l'univers entier, faisant horreur à ses semblables sans l'avoir mérité par aucune faute. Enfin, le rebut du monde. » À ce stade, elle rapproche, vous l'entendez, le paria, non pas de la femme, mais de l'homme sensible, qui, lui aussi, est d'une race proscrite. On ne le comprend pas, ses sentiments l'isolent des autres, il est perpétuellement blessé, insatisfait, tenu à distance. Mais 4 ans plus tard, dans De la littérature, 1800, elle précise la comparaison, en visant particulièrement cette fois la situation des femmes autrices, soumises à l'opprobre public, abandonnées de tous. Pour peu que l'une d'entre elles montre du talent, dit-elle, l'opinion s'acharne sur elle. Je cite, « On l'abandonne à ses propres forces, on la laisse se débattre avec la douleur, elle promène sa singulière existence comme les parias de l'Inde, entre toutes les classes dont elle ne peut être, toutes les classes qui la considèrent comme devant exister par elle seule, objet de la curiosité peut-être, de l'envie, et ne méritant en fait que la pitié. » Non, j'ai pas tout à fait terminé, pardon. Après, je me suis arrêté sur cette citation frappante. Non, je voulais quand même dire tout dernier mot, si vous me le permettez, quand Germaine de Staël écrit ces lignes, évidemment, par rapport à un certain nombre de textes que j'ai cités au préalable, la révolution est passée par là. Donc l'écrivaine fait le bilan d'une expérience et d'une situation qu'elle a bien connue, qui était celle des femmes de lettres dans la France d'Ancien Régime, mais elle fait aussi écho à une situation nouvelle, celle d'une situation paradoxale que la révolution a faite aux femmes en affirmant l'universalité des droits tout en les excluant de leur exercice. Nous voilà donc arrivés, vous l'avez compris, au point d'articulation, peut-être au point de bascule entre les Lumières et la Révolution, et c'est ce qu'il nous faudra aborder dès la semaine prochaine. Je vous remercie.
Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-de-france.fr.